Voilà, chers amis, chers membres de l'association franco-écossaise, merci de vous être rendus disponibles ce soir. Je suis heureuse de vous accueillir à l'ancien collège des Écossais et surtout souhaiter la bienvenue à mon collègue et ami Benoît Valravens qui nous vient de l'université de Caen. Voilà. Donc merci Benoît de t'être rendu disponible ce soir. Alors, je souhaiterais vous dire que nous avons eu une réunion de bureau tout à l'heure pour un certain nombre de préoccupations qui nous occupent, notamment celui de l'agenda des prochaines conférences 2026-2027 et de la façon dont on peut renforcer la communication de l'association de façon à attirer davantage de membres, ce qui est pas toujours évident par les temps qui courent en raison du temps que chaque participation à une association engendre. Alors, sur les activités de représentation à l'étranger de l'association, à noter que le 29 mai, je suis invitée par le maire d'Aberdeen à faire une conférence sur William Byrne, l'architecte écossais du 19e siècle, donc à l'invitation du maire d'Aberdeen, et ça aura lieu à Elphinstone Hall, dans le cœur de l'université historique de Aberdeen. Et je transmettrai à cette occasion et à la branche d'Aberdeen de la Franco-Scottish Society vos amitiés. Il me reste à te présenter Benoît. Tu es maître de conférence en histoire de la pensée économique, titulaire d'un doctorat en sciences économiques à l'Université Paris 1, que tu as soutenu en 2010 sur le sujet « Croissance et progrès chez Smith ». Tu as rédigé à la suite de ton doctorat de multiples articles, notamment sur Smith, sur Rousseau, sur Rawls, sur Thomas Piketty, sur les enjeux des inégalités économiques, sur Rénal, sur l'histoire des deux Indes. Et ce qui te préoccupe, c'est la question de savoir comment réconcilier en fait, les impératifs de libéralisme économique et une vision soutenable de l'économie. Voilà. Et donc, le cœur du sujet de ce soir, c'est le commerce et la guerre chez les Lumières écossaises.
Merci. Bonjour à toutes et à tous. Comme vous avez pu le voir, j'ai modifié légèrement le titre. J'ai ajouté David Hume et Adam Smith. Je vais vous expliquer rapidement pourquoi. Donc, d'abord, je voudrais remercier Clarisse pour l'invitation à participer à ces conférences de l'association franco-écossaise que je connais, mais auxquelles je n'ai jamais eu l'occasion de participer jusque-là. Souligner d'emblée mon plaisir d'être parmi vous en ce lieu qui célèbre l'Écosse et ses grandes figures et l'amitié franco-écossaise. En cette année anniversaire, comme vous le savez certainement, nous fêtons d'une part les 250 ans de la publication de l'enquête sur la nature et les causes de la richesse des nations, La richesse des nations de Adam Smith, l'un des tout premiers traités d'économie et certainement l'un des plus influents de l'histoire de la discipline. Et il y a 250 ans également, mourait David Hume, son compatriote et ami, qui a lui aussi contribué à l'émergence de la science économique et qui, comme Smith, était francophile. Il a passé pas mal de temps, surtout Hume, hein, mais Smith aussi a passé un temps assez conséquent en France en tant que précepteur du duc de Buccleuch, chose sur lesquelles je ne vais pas revenir ici. Je veux bien que tu changes. Merci. Donc, comme l'a rappelé Clarisse, je suis économiste de formation, avec un intérêt personnel pour la philosophie. Donc, maître de conférences en sciences économiques à l'Université de Caen-Normandie, spécialiste d'histoire de la pensée économique et de philosophie économique. Et donc, j'ai un intérêt particulier, vraiment, pour les Lumières écossaises, en particulier pour Smith, comme l'a dit Clarisse. J'ai fait ma thèse dessus et beaucoup de travaux, d'articles, de livres, encore un bientôt, sur Adam Smith, un auteur passionnant, comme vous le savez. Tout d'abord, je vais essayer de justifier pourquoi ce thème pour mon intervention. D'une part parce que je crois que ce thème était extrêmement important pour les Lumières écossaises et en particulier pour les deux qui vont m'intéresser ici. Donc je me focaliserai sur ces deux auteurs parce que ce sont ceux que d'une part je connais le mieux et ensuite qui sont à mon avis les plus importants et les plus influents, même si on pourrait en discuter, et en particulier sur ces questions-là. Un grand nombre de questions ont été soulevées par les auteurs que je vais mentionner, Hume et Smith. La guerre est-elle favorable au commerce et à l'économie des nations? À l'inverse, le commerce favorise-t-il l'animosité et les conflits entre les nations? Au contraire, est-il source de paix? d'union et d'amitié entre les nations? L'esprit de conquête et l'esprit de commerce sont-ils antithétiques? Les nations font-elles la guerre pour favoriser les intérêts du commerce? Telles sont un peu certaines des questions que les penseurs déjà du XVIIIe siècle se posaient eu égard aux effets politiques du commerce et qui sont, à mon avis, encore les nôtres, en particulier lorsqu'on regarde un petit peu l'actualité. Donc j'essaierai d'expliquer un petit peu en quoi les Lumières écossaises vont proposer, ils ne sont pas les seuls ni les premiers, mais à proposer une autre vision des rapports entre commerce et la guerre, essayer de mettre en avant la possibilité d'un effet pacificateur du commerce sur les relations entre les nations. Cette actualité, qu'est-ce que c'est? Il suffit de regarder, heureusement ou malheureusement, la politique étrangère américaine pour comprendre que nous sommes entrés dans une nouvelle phase du capitalisme que Arnaud Aurin, dans un essai assez passionnant et récent, qui a assez bien tourné, qu'on a vu beaucoup dans les médias, appelle, je veux bien que vous changiez de slide s'il vous plaît, le capitalisme de la finitude et donc un retour du capitalisme de la finitude. Alors qu'est-ce que c'est le capitalisme de la finitude? Eh bien c'est une nouvelle phase du capitalisme qui est marquée par, nous dit Arnaud Aurin, la fin de la mondialisation néolibérale. Alors qu'est-ce que c'est la mondialisation néolibérale? On pourrait en discuter longuement, mais disons qu'il y a ici l'idée que c'est une vision du capitalisme portée par une idée de croissance illimitée, d'abondance, une possibilité de coopération économique internationale avec des institutions internationales qui fonctionnent plutôt bien, l'OMC en particulier, le FMI du côté monétaire. C'est l'idée aussi chez les libéraux et néolibéraux d'une mondialisation qui serait heureuse, qui bénéficierait à tous, etc. Bon, malheureusement, cette vision, ou heureusement en tout cas, cette vision idéologique a été frappée par la réalité de la montée des inégalités d'une part et de la crise écologique d'autre part. Alors qu'est-ce que c'est que cette nouvelle phase du capitalisme qu'il appelle capitalisme de la finitude? Eh bien c'est un capitalisme qui au contraire revient sur cette idée de croissance illimitée dans un monde fini. C'est le point de départ en fait, c'est vraiment ça, c'est de se dire que les ressources de la planète sont limitées. Il faut bien comprendre que ça paraît évident, mais chez les économistes pendant longtemps ça n'a pas été pris en compte. Et donc, la nature était vue essentiellement comme une ressource permettant de créer des besoins, enfin de satisfaire des besoins, on va dire. Une ressource qui était là pour l'humanité, en quelque sorte, et non pas consubstantielle à l'activité économique. Et donc, le capitalisme de la finitude, c'est que maintenant qu'on prend vraiment conscience de la contrainte écologique, de la rareté des ressources naturelles, le capitalisme change de forme. Le capitalisme a toujours changé de forme, il s'est toujours adapté aux situations économique, sociale et politique. Et qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça donne essentiellement aujourd'hui un capitaliste qui donc a changé de nature, qui est devenu autoritaire, prédateur, qui cherche à contrôler les ressources restantes par des moyens économiques, politiques et militaires. Par quoi est-ce que ça se traduit? Ça se traduit par la privatisation des mers, des territoires et des ressources, l'accaparement, la prédation, le vol. Le rôle de compagnies État, de multinationales qui ont des puissances tellement importantes qu'ils dictent leurs lois carrément aux États démocratiques ou qui sont protégés par les gouvernements dans lesquels ils sont. Donc des multinationales qui sont tellement puissantes qu'elles deviennent des puissances même politiques et militaires. Alors on pourrait entrer dans les détails, mais les traités de commerce international désormais contiennent des procédés d'arbitrage où les multinationales peuvent contester les lois nationales si elles contreviennent à leurs propres intérêts. Et puis, bien sûr, il y a toute la question de l'évasion fiscale des multinationales, donc le caractère antidémocratique, en fait, des multinationales. Et puis, deux caractéristiques encore très importantes pour nous, la question de la guerre commerciale, donc c'est Donald Trump, hein, en gros, qui a surtout lancé les hostilités, on va dire, une militarisation économique, donc même si ça ne se voit pas toujours dans l'actualité, mais il y a de nombreux lieux de la planète, des mers qui sont militarisés, où le commerce est protégé par l'armée. Et puis ça se traduit aussi par la monopolisation, bien sûr, des terres, des matières premières, des ressources rares, les fameuses terres rares, et des sources d'énergie. Donc vraiment, l'incarnation de ça la plus probante, c'est bien sûr la politique commerciale et étrangère de Donald Trump dans son deuxième mandat, mais il n'est pas le seul, la Chine aussi, bien sûr, a une forme d'activité de capitalisme de la finitude, la Russie aussi, bien sûr, etc. Donc voilà un petit peu pour le capitalisme de la finitude. Je veux bien que vous changiez, s'il vous plaît. Donc j'ai parlé de retour du capitalisme de la finitude, comme l'a souligné Arnaud Rein. Pourquoi ? Parce que, en fait, ce n'est pas la première fois que ce genre de choses se produit. Alors bien sûr, le contexte économique, social, politique n'était pas du tout le même, mais avant même l'avènement du capitalisme, avant la révolution industrielle, à l'orée de la révolution industrielle, a eu lieu une sorte de première phase de capitalisme de la finitude qu'on peut appeler le mercantilisme ou le système mercantile, la pensée mercantiliste, que je vais essayer de vous expliquer de manière brève et simple, même si ce n'est pas évident, vous allez voir. Alors qu'est-ce que c'est le mercantilisme ? Le mercantilisme, dans le cadre de l'histoire des théories économiques, c'est vu généralement comme un courant de pensée pré-économique. Alors qu'est-ce que j'entends par là ? Courant de pensée pré-économique au sens où c'est pas exactement une école de pensée, puisque c'est un ensemble d'auteurs qui, et c'est mon deuxième point que je vais développer après, qui ont été regroupés a posteriori, c'est-à-dire au XVIIIe siècle, par les libéraux pour dire voici en gros qui sont nos ennemis, qui sont ceux qui n'ont pas compris les vrais principes de l'économie. Nous allons vous montrer que ces gens-là n'ont pas compris l'économie et que leurs préjugés ont des conséquences très concrètes, parce qu'encore, s'ils se trompaient sur la théorie économique, c'est pas très grave, mais les conséquences réelles sont très graves, les conflits, la guerre, l'absence de progrès économique et de bien-être social, etc. etc. Donc courant de pensée pré-économique, parce qu'ils sont là avant les débuts de la science économique. La science économique naît au XVIIIe siècle, comme vous le savez peut-être. Elle naît avec, alors là on peut discuter, mais essentiellement les physiocrates en France au milieu du siècle, et puis avec Adam Smith, David Hume aussi, en Grande-Bretagne, et un petit peu avant avec la science du commerce en France, le cercle de Gournay, etc. Donc on est au milieu du XVIIIe siècle, et on a l'émergence d'une nouvelle science qui va s'appeler science économique. Le terme est porté par les Français, le terme économiste aussi est inventé par nos physiocrates, nos économistes français, physiocrates que connaissent bien Hume et Smith, même s'ils ne les portent pas forcément beaucoup dans leur cœur. Et donc c'est un courant de pensée pré-économique, pourquoi ? Parce que dans la logique mercantiliste, la richesse est au service de la puissance du souverain et de l'État. D'accord ? À l'inverse, la science économique va venir dire le but de l'économie, c'est pas seulement d'enrichir le souverain, le monarque, le prince, c'est aussi d'enrichir le peuple, d'améliorer le bien-être de tout le monde. C'est vraiment un point sur lequel Adam Smith va pas mal insister dans ses travaux. Donc on n'est plus simplement dans une logique de puissance et de pouvoir de la nation, qui passe en partie par le commerce, alors que dans la science économique, on va être dans une logique d'enrichissement, d'abondance, etc. Où le politique va être, en gros, va devoir finalement se retirer quelque peu de l'activité économique. Or ici, c'est le politique qui dicte sa loi à l'économie, entre guillemets, qui dirige l'économie. On n'est pas dans la planification, bien sûr, mais on est dans l'idée qu'il y a une forte implication de l'État dans l'économie. Il y a des variantes nationales du mercantilisme, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais la variante française, c'est ce qu'on appelle le colbertisme, d'accord ? Donc la politique de Colbert, dont les caractéristiques sont les grandes manufactures royales, dont on a encore quelques relents aujourd'hui, historiques, mais qui correspond globalement à l'ensemble des points que je vais évoquer ici. Hein. On privilégie les manufactures sur l'agriculture, on dira Smith, forte intervention de l'État, protectionnisme, etc. Donc oui, deuxième point, je disais, une reconstruction a posteriori. Donc c'est un ensemble d'auteurs qui ne se sont jamais désignés comme étant des mercantilistes. Alors, juste le terme, hein, quelques mots sur le terme, il s'appelle mercantiliste parce que ce sont des marchands, mercs, la marchandise. Hein. Et en gros, l'économie, le mercantilisme, c'est l'économie du point de vue des marchands, des capitalistes, dira Smith. Okay. Et tout le travail de Smith, ça va être de dire le mercantilisme, c'est une vision erronée, partiale. L'intérêt des capitalistes n'est pas l'intérêt de la nation. Et ça, c'est très important. Smith n'est pas quelqu'un qui défendrait aujourd'hui l'intérêt des capitalistes, des milliardaires, des multinationales, etc. En tout cas, pas comme le font certains aujourd'hui. Donc, voilà, un ensemble d'auteurs reconstruits par les libéraux. D'une part, en fait, l'expression « système mercantile » nous vient de Mirabeau, hein, des Français physiocrates aussi. Et puis, c'est Adam Smith qui va conceptualiser le système mercantile, le mercantilisme vraiment. Okay. Alors, quels sont les grands principes du mercantilisme ? Le mercantilisme forme un système, c'est-à-dire que c'est un ensemble d'éléments qui sont quand même, qui ont une certaine cohérence. D'accord ? C'est pas complètement des aberrations économiques. Il y a une certaine cohérence, mais qui part d'un postulat qui est faux et donc dont toutes les conséquences sont aussi erronée d'après Smith et Hume. C'est ce qu'on va voir un petit peu. Alors le premier principe, le péché originel, si vous voulez, du mercantilisme, c'est de penser que la richesse est de nature monétaire et non pas réelle. Donc Smith va insister pas mal là-dessus, je ne vais pas en reparler parce que ce n'est pas exactement lié, ce sera un petit peu lié à ce que je vais dire, mais pas complètement. Smith va dire que la richesse d'une nation dépend des richesses qu'elle produit et donc de sa capacité à satisfaire les besoins de la population. Okay, donc sa capacité à produire des necessities and conveniences of life, donc des biens nécessaires quoi, pour faire vite, des biens nécessaires à une vie sociale digne et décente. Donc la richesse est de nature monétaire. En clair, les mercantilistes, la plupart, pensent qu'une nation est riche si elle accumule beaucoup de métaux précieux, d'or et d'argent. Okay. Comment est-ce qu'on fait pour accumuler beaucoup de métaux précieux? Pas très compliqué. Il va falloir accumuler des excédents commerciaux. Okay. Si vous exportez, ça fait rentrer de la monnaie. Si vous importez, ça fait sortir de la monnaie. Donc si je veux m'enrichir, d'après cette théorie-là, il faut une balance commerciale excédentaire. Il faut que j'exporte plus que je n'importe. D'accord? Surtout, deuxième point, on est dans un monde, on est dans des conceptions prémodernes, on est au 16e, 17e, début 18e siècle, et il n'y a pas encore cette idée qu'une croissance, je dirais pas infinie chez Smith, parce que même Smith pose des limites à la croissance, tous les économistes classiques pensent que la croissance ne durera pas infiniment, qu'on va vers un état stationnaire, mais en tout cas, il n'y a pas cette idée du tout que le monde est possiblement, que la taille du gâteau peut croître infiniment, ok? Au contraire, il y a l'idée que le monde a un espèce de stock de richesses finies et donc il va falloir se partager. Ce qui implique que le commerce international, pas forcément le commerce national, mais le commerce international est vu comme un jeu à somme nulle. On a déjà cette idée chez Montchrétien, un vieil ancêtre de l'analyse économique, un mercantiliste français au 16e siècle, 17e, 16e, bon, bref, je vérifierai. Donc voilà, le commerce est vu comme un jeu à somme nulle, que les uns gagnent, les autres le perdent, donc il faut gagner des parts de marché. Si j'importe, je perds en gros, c'est comme si je me faisais voler. D'ailleurs, c'est la rhétorique de Donald Trump, si vous avez remarqué, lorsqu'il a imposé ses droits de douane, nous faisons voler par le monde entier juste parce qu'ils avaient des déficits commerciaux et que les Américains consomment de manière surabondante. Donc implication de tout ça, c'est, je le disais, la doctrine de la balance commerciale excédentaire. Si vous voulez vous enrichir, alors il faut des excédents commerciaux. Il faut exporter plus qu'on importe. Comment est-ce qu'on fait pour exporter beaucoup et importer peu? Eh bien, ça passe aussi par des liens très forts entre le commerce et la guerre. Le commerce et la guerre sont indissociables, guerre économique, au sens économique du terme, mais guerre politique et militaire aussi. Donc, en clair, le mercantilisme justifie la guerre économique, c'est-à-dire les guerres douanières, si vous voulez, on dirait aujourd'hui, mais aussi la guerre militaire, indissociable du mercantilisme, et l'incarnation même du mercantilisme, c'est les grandes compagnies de commerce privilégiées coloniales, c'est-à-dire les compagnies des Indes, orientales, etc., contre lesquelles Smith est vent debout en disant ce sont des compagnies qui ont non seulement un monopole sur des marchés, ce qui n'est pas normal, ce qui est contraire à l'intérêt de la population. Smith a cette idée que la finalité de la production, c'est la consommation, donc si on ne permet pas aux consommateurs d'acheter moins cher, c'est mauvais pour l'intérêt général. Et le commerce colonial, les grandes compagnies, c'était les ancêtres des compagnies par action, et ces compagnies avaient même des prérogatives politiques, elles contrôlaient politiquement des territoires. Donc Smith nous dit, le pire gouvernement, c'est le gouvernement des marchands, des riches, des capitalistes. Sacrée leçon pour aujourd'hui. Dernier élément lié à tout ça, si vous partez de l'idée que la richesse est monétaire, que le commerce est un jeu à somme nulle, qu'il faut une balance commerciale excédentaire, que la guerre est justifiée pour s'accaparer les territoires et les ressources, la colonisation, eh bien vous allez défendre le protectionnisme, et donc chez les auteurs mercantilistes, on a souvent l'idée qu'il faut protéger la quantité de monnaie, qu'il faut subventionner les exportations ou au contraire taxer les importations. D'accord ? Donc c'est un monde de guerre, de rapport de force, de rapport de puissance. C'est la logique de la raison d'État qui est en gros implantée dans le raisonnement économique. Tout ça semble faire sens, mais nos auteurs, Smith et Hume, vont essayer de montrer que tout ça est non seulement faux, mais surtout dangereux. Dangereux pour la société, dangereux pour les populations, dangereux pour tout le monde. Merci. Alors pour l'expliquer, je vais passer un peu de temps sur la thématique de ce que Hume a appelé la jalousie du commerce. Je vais vous expliquer un petit peu ce que ça veut dire et comment Smith va reprendre ça et le réinterpréter, le développer un petit peu en termes de jalousie mercantile. Donc je vous montrerai un peu quel est l'apport d'Adam Smith là-dessus. Donc, qu'est-ce que c'est? Alors, jalousie du commerce, entre guillemets, parce que c'est une expression utilisée par David Hume. C'est même le titre d'un de ses essais, de ses fameux essais politiques. Mais l'idée même de jalousie du commerce apparaît dans plusieurs essais d'Hume, comme je vais vous l'expliquer. Alors, l'origine de l'expression, d'où est-ce qu'elle vient? Et là, c'est relativement important en termes d'histoire des idées. Parce que moi, j'avais réussi à reconstruire, c'est qu'a priori, l'expression, Hume l'a trouvée chez Montesquieu, dans l'esprit des lois. Pourquoi c'est important? Parce que c'est aussi Montesquieu qui vont reprendre pour défendre l'idée de doux commerce et l'idée que le commerce peut pacifier les relations entre les nations. Donc Montesquieu utilise à plusieurs reprises dans l'esprit des lois cette expression de jalousie du commerce qui peut paraître un peu bizarre. Parler de jalousie, qui est plutôt un sentiment individuel pour appliquer ça au commerce. En fait, dans la littérature de l'époque, vous pouvez aller trouver chez Hobbes des choses sur la jalousie politique. Mais ici, on va importer le concept dans le raisonnement économique qui est en train de se créer. La science économique, Montesquieu n'est pas un économiste, mais c'est quelqu'un qui s'intéresse à l'économie. Et donc, il y a un changement de sens, un basculement vers cette question économique. Donc la jalousie devient non pas seulement un problème politique, mais aussi un problème économique. Politiquement, comme Hume l'explique dans un certain nombre de ses essais, on entre dans un nouveau monde à partir du XVIIIe siècle. C'est un monde où les gouvernements ne peuvent plus se passer, ou en tout cas ne peuvent plus négliger la question économique. Et pourquoi ils ne peuvent plus négliger la question économique? Eh bien parce que on commence à comprendre à partir du XVIIIe siècle qu'une nation puissante, c'est une nation riche, qui a un PIB important, on dirait aujourd'hui. D'accord? Donc ce qui veut dire que même si vous avez des objectifs purement politiques, de domination, de conquête, etc., vous avez intérêt à enrichir la nation si vous voulez être compétitif sur les marchés et même capable de soutenir vos rivaux d'un point de vue purement politique. Alors, où est-ce que Hume traite de ces questions? Il le fait dans deux essais, principalement, pas que, hein. Le point de départ de Hume, ça va être d'expliquer que la richesse des nations dépend du commerce, d'accord? Elle ne dépend pas de la quantité de monnaie. Le premier essai dans lequel il va traiter de la jalousie du commerce, en fait, il va présenter deux facettes de la jalousie du commerce. La première, de l'équilibre du commerce, la balance commerciale, en gros. Texte de 1752. Cette première version de la jalousie du commerce, c'est ce qu'on peut appeler la jalousie de la monnaie ou de la balance commerciale. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est envier le fait que d'autres nations aient des excédents commerciaux que nous ne pouvons pas avoir. Alors, attendez, je vais donner un peu de détails quand même là-dessus. Alors, pour expliquer tout ça, en gros, Hume va essayer de montrer dans Of the Balance of Trade que finalement, essayer de modifier artificiellement la quantité de monnaie dans une nation, ça n'a aucun intérêt. C'est non seulement inutile, mais c'est même pernicieux, c'est même inefficace. Pourquoi? Parce que, d'après lui, il y a une forme de régulation naturelle de la quantité de monnaie en circulation dans une nation. C'est ce qu'il appelle le Price Pressure Flow Mechanism, le mécanisme de flux d'espèces. Bon, traduction en français un peu bizarre, mais en gros Hume dit quoi qu'on fasse, de toute façon la quantité de monnaie en circulation s'adapte à l'activité économique, à la production de richesses, au PIB. Alors pour le montrer, il fait une expérience de pensée et il nous dit, très belle expérience de pensée d'ailleurs, que se passerait-il si demain les 4/5 de la quantité de monnaie partaient de Grande-Bretagne? Qu'est-ce qui se passerait? Il nous dit, à court terme, les salaires et les prix s'écrouleraient, les exportations, puisque les prix et les salaires ont baissé, seraient favorisées, et donc on reviendrait petit à petit, la monnaie reviendrait dans le pays, et donc on retournerait à l'équilibre avant. Deuxième expérience de pensée, l'expérience contraire, donc il a vraiment un raisonnement d'économiste moderne. Que se passerait-il si à l'inverse, la quantité de monnaie était multipliée par 5? Eh bien, l'inverse. Les salaires et les prix vont augmenter très très vite, ce qui fait que les importations vont être stimulées et les exportations vont diminuer. Donc pareil, on va retrouver la quantité de monnaie qu'on avait avant. D'accord? Donc en gros, ça veut dire qu'essayer de maintenir artificiellement un surplus de monnaie ne sert à rien et c'est même contre-productif. Donc ce qui fait que les barrières commerciales qui visent à accroître la quantité de monnaie en circulation sont des erreurs, des préjugés économiques et sont néfastes pour le commerce. Et donc, comme je le note ici, ce qu'essaie de nous dire, ce qu'essaie de nous montrer Hume et ensuite Smith, c'est que c'est là qu'on est dans la naissance de l'économie, si vous voulez, de la science économique. Face aux préjugés, ils utilisent beaucoup le mot préjudice, okay, face aux préjugés et aux passions destructrices, au bon sens économique aussi, on pourrait dire, il y a des lois et des principes de l'économie qui sont intangibles, contre lesquels, une sorte de principe naturel, contre lesquels on ne peut rien faire. Donc ce principe d'adaptation de la quantité de monnaie en circulation, par exemple, en fait partie. D'accord ? Deuxième version de la jalousie du commerce, la plus probante, entre guillemets, c'est dans l'essai du même nom, éponyme, hein, « Of the Jealousy of Trade », qui apparaît quelques années plus tard et qui va avoir un certain succès auprès des nouveaux économistes. Cette fois-ci, c'est de quoi il s'agit, cette seconde forme de jalousie, c'est le fait d'envier la prospérité d'une nation voisine. Alors dans les deux cas, l'exemple que prend Hume, et c'est très intéressant, c'est la rivalité entre la Grande-Bretagne et la France. Les deux grands rivaux de l'époque, les deux grands empires. Et on verra comment Hume termine son essai of the Jealousy of Trade par une espèce de figure rhétorique. Enfin, je ne vous spoile pas, je vous expliquerai après. Donc de quoi il s'agit ? Il s'agit cette fois-ci d'envier la prospérité. Or, ce que vont dire Hume puis Smith, ça ne sert à rien d'envier la prospérité d'un voisin. Au contraire, une nation voisine riche, c'est une opportunité économique. Puisqu'ils consomment beaucoup, ils vont peut-être importer des biens qui viennent de chez nous. Ensuite, s'ils sont plus avancés que nous, ce n'est pas grave parce que ça va créer, et c'est là que c'est très important, cette question de l'émulation. L'émulation, je reviendrai dessus parce que c'est... alors, on est chez Hume et Smith dans la théorie des passions. Ce sont les passions qui nous font agir et pas simplement notre raison. Et l'émulation, c'est la version positive de la jalousie et de l'envie. D'accord ? L'émulation nous pousse à exceller, c'est parce qu'on admire les autres qu'on a envie d'atteindre leur niveau, alors que l'envie et la jalousie est une passion triste, malheureuse, qui nous pousse à diminuer, ou à plutôt à pousser les autres vers notre propre situation inférieure. Okay ? Donc il y a une passion qui est progressiste, entre guillemets, qui permet le progrès, l'innovation, etc., et une autre qui, au contraire, est néfaste pour tout le monde. Et donc, ils utilisent ce terme d'émulation plutôt que de jalousie et d'envie, de manière très claire. Donc, en fait, ce qui change, c'est de dire, bon, les mercantilistes pourraient dire, oui, les exportations, c'est très bien, parce que ça améliore la richesse, etc. Hume et Smith ne vont pas contester ça. Mais ils vont nous dire, les importations aussi, c'est bien, comme je le disais, parce que ça pousse à l'émulation, ça pousse les entreprises nationales à se surpasser, à essayer de... ce qu'on appelle en économie les substitutions aux importations, puisqu'on importe des biens, il y a peut-être des entreprises nationales qui vont essayer d'imiter et de même surpasser toute la stratégie asiatique et chinoise pendant des années, qui maintenant est passée à une autre étape. Ensuite, c'est bien pour les consommateurs, parce que, argument très moderne de la nouvelle théorie du commerce international, qui date pourtant des années 1980, en important, on satisfait des besoins qui ne sont pas satisfaits par le marché domestique, donc on améliore le bien-être des consommateurs, et le bien-être des consommateurs est l'aiguillon, si vous voulez, de la prospérité nationale. D'accord ? Donc on a avec Hume toute cette idée qu'il ne faut surtout pas envier la prospérité des voisins, au contraire, il faut l'accueillir à bras ouverts. Et donc il termine son essai, toujours en parlant de la Grande-Bretagne et de la France, en disant, on traduit ça en résumé, mais non seulement en tant qu'homme, mais en tant que sujet britannique, je prie, ce qui est assez marrant pour David Hume quand même, je prie pour le commerce florissant de l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie et même de la France. Pourquoi ? Parce que en fait, la Grande-Bretagne aurait tout intérêt à accueillir le commerce britannique et non à mettre des barrières. Les deux pays auraient intérêt mutuellement au commerce, car le principe de base de l'économie, c'est l'avantage mutuel. C'est ça la nouveauté de l'économie. L'échange, c'est un jeu à somme positive et pas un jeu à somme nulle, même l'échange international. Et donc si j'importe, c'est quand même que j'y trouve mon intérêt. Si j'y trouve mon intérêt, c'est que ça améliore mon bien-être. Donc le principe de l'avantage mutuel ou du bénéfice mutuel, de cette réciprocité, si vous voulez, dans l'échange, il est extrêmement important pour Hume, comme il va l'être pour Smith, comme on va le voir. Si vous pouvez passer, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que ça donne chez Smith ? Je vais prendre les différentes œuvres de Smith, alors publiées ou pas publiées, peu importe. Mais Smith n'emploie pas, je le disais tout à l'heure exactement, l'expression jalousie du commerce, mais il va utiliser jalousie mercantile. Pourquoi? Parce que, contrairement à Hume, Smith va théoriser le système mercantile. Donc les éléments que je vous ai mis un petit peu avant, chez Smith, c'est beaucoup plus théorisé en gros que chez Hume. Et à ce système mercantile, Smith va opposer son propre système d'économie politique, sa propre vision qu'il appelle le système de la liberté naturelle. Et donc, ses réflexions sur les liens entre commerce et paix vont s'inscrire dans cette idée que on a intérêt à développer un système impartial, libéral, avec une concurrence libre et équitable qui va profiter à tous, sous certaines conditions, bien sûr, institutionnelles. On trouve déjà des traces de la question de la jalousie du commerce dans ce qu'on appelle les Lectures on Jurisprudence de Smith. Alors, qu'est-ce que c'est ? En fait, Smith n'a publié réellement de son vivant que deux ouvrages, donc La richesse des nations et La théorie des sentiments moraux. Mais, alors, après sa mort, ont été publiés uniquement les essais philosophiques, mais il a fait brûler la plupart de ses manuscrits. Mais on a un certain nombre de copies de ses cours. Alors, les Lectures en jurisprudence, qu'est-ce que c'est ? Smith, quand il était professeur de philosophie morale à Glasgow, avait quatre parties dans son cours, une partie théologie qu'on n'a jamais retrouvée, qui intéressait peut-être un peu moins Smith, une partie droit et sciences politiques, on dirait aujourd'hui, qui correspond à ce que vous avez ici, c'est-à-dire les Lectures on Jurisprudence, une partie économie, qui deviendra La richesse des nations, et une partie théorie morale, qui est la théorie de des sentiments moraux, dont la première édition a été publiée en 59, mais comme on va le voir, Smith traite de la question dans la dernière édition, ce qui est assez intéressant, ce qui montre que la question le passionnait encore à la fin de sa vie, quelques mois seulement avant qu'il nous quitte. Donc oui, on trouve dans les Lectures en jurisprudence déjà les idées de Hume, c'est-à-dire la jalousie monétaire, la jalousie de la balance commerciale. Smith nous dit, bon, la richesse n'est pas monétaire, avoir une balance commerciale excédentaire n'est pas le signe qu'on s'enrichit, parce que la richesse n'est pas monétaire, et il ne sert à rien de se protéger. Donc Smith va théoriser le système mercantile donc, comme système des marchands, des capitalistes qui abusent en fait les législateurs, qui leur font croire que l'intérêt des capitalistes est l'intérêt de la nation, alors que ce qu'ils cherchent généralement, c'est à se protéger de la concurrence. Okay ? Et ça, c'est néfaste pour l'intérêt général, pour l'intérêt des consommateurs, pour l'intérêt de la société. Donc dans les Lectures en jurisprudence, Smith n'a pas encore théorisé le système mercantile, il va le faire dans La richesse des nations, et donc vous avez toute la partie 4 de La richesse des nations qui est très longue, qui s'appelle « Of Systems of Political Economy », donc les systèmes d'économie politique. Ce n'est pas compliqué, il n'y en a que 3. Il y a le système mercantile qui va... Smith va passer 8 chapitres sur 9, ou 7 sur 8, 8 sur 9, je crois, uniquement sur le système mercantile, à critiquer le système mercantile, parce que c'est son véritable ennemi, il le dit d'ailleurs dans des lettres. Hein, voilà. Il faut s'attaquer au système, à la collusion entre les capitalistes et les législateurs. Même si c'est quand même la base de son lectorat et qu'il passait beaucoup de temps avec certains d'entre eux. Et donc, il y a un chapitre sur le système physiocratique. Voilà, je ne veux pas en parler, mais il fait aussi des critiques sur les économistes français qui sont un peu trop idéalistes, un peu trop libéraux, en quelque sorte, si vous voulez, et trop axés sur l'agriculture aussi. Et puis, à la toute fin, il nous dit, si on enlevait toutes les barrières au commerce et les restrictions que le système mercantile a implantées, alors on aboutirait au vrai système, le système de la liberté naturelle que lui défend. Et puis dans le livre 5, il va expliquer un peu quel serait le rôle de l'État là-dedans. Donc la jalousie du commerce dans La richesse des nations, c'est une jalousie mercantile. C'est en gros l'idée que le mercantilisme crée de l'animosité artificielle entre les nations en nous faisant croire, en gros les capitalistes font croire aux législateurs qu'il faut se protéger pour l'intérêt national alors que c'est simplement pour leur propre intérêt. Et que ce faisant, ils exacerbent les tensions entre les nations. D'accord ? En résumé, très très rapide. Donc Smith a quasiment les mêmes arguments que Hume. Non, la prospérité d'un voisin n'est pas néfaste, au contraire, elle est bénéfique parce que l'échange international est lui aussi mutuellement avantageux, il profite à tous, il faut importer, ça crée de l'émulation, etc. On retrouve un peu, on retrouve les mêmes termes, hein. Il n'y a pas de hasard, ils se connaissaient bien. Et puis, élément un peu particulier et intéressant, chez Smith aussi, il y a cette idée de lien avec le patriotisme. Alors, Smith explique que donc, ce qui fait qu'il y a cette jalousie du commerce, c'est les préjugés économiques, la mauvaise connaissance ou compréhension de l'économie. Les gens ne comprennent pas les lois de l'économie. Ils ne comprennent pas qu'on ne peut pas modifier artificiellement la répartition ou l'affectation des ressources en termes économiques, techniques. tout ça est préjudiciable. Il vaut mieux laisser faire les individus poursuivre leur intérêt. Bon, voilà, toujours cette métaphore de la main invisible. Et surtout, dans la théorie des sentiments moraux, on est dans la dernière édition que Smith écrit juste avant de mourir, en 1790. Il meurt quelques mois après. Il y a beaucoup de modifications dans cette dernière partie. En particulier, Smith ajoute alors plusieurs chapitres sur la vertu, les vertus de caractère, et plus spécifiquement sur la bienfaisance, sur laquelle je reviendrai après, c'est-à-dire l'altruisme, on dirait aujourd'hui. Et dans une des sous-sections de la bienfaisance, il y a une partie sur le patriotisme. Qu'est-ce que le patriotisme, dit Smith? C'est la bienveillance ou bienveillance envers notre nation. Nous avons des sentiments particuliers d'attachement vis-à-vis de notre nation. En gros, c'est ce qu'il appelle national pride, quoi, la fierté nationale ou l'orgueil. Pride, c'est un peu difficile à traduire. Mais ici, on pourrait plutôt parler peut-être d'orgueil, parce qu'il s'agit... Smith, en gros, ne dit pas que le patriotisme est forcément un vice. Il nous dit que beaucoup de qualités peuvent être associées au patriotisme, mais en l'occurrence, dans le domaine économique, le patriotisme ou la fierté nationale, elle a des conséquences plutôt néfastes. Elle nous fait envier la prospérité des autres. Entre autres, on dit, on est très fier lorsqu'on se compare aux autres nations et qu'on est meilleur. Il suffit de voir un peu les compétitions, même sportives, internationales, etc. Par contre, lorsqu'on est inférieur aux autres, alors on a une espèce de ressentiment, de jalousie, d'envie qui pousse à vouloir intervenir, à créer des barrières artificielles au commerce, etc. Donc, une des raisons psychologiques, si vous voulez, de la jalousie du commerce, c'est le patriotisme ou la fierté nationale qui bloque un peu le raisonnement ou la raison économique qui voudrait que non, nous avons intérêt à la prospérité de nos voisins. Vous pouvez passer, s'il vous plaît. Merci. Alors, au final, à quoi aspirent Smith et Hume? Donc, à l'idéal du doux commerce. Pourquoi je parle d'idéal? Donc, c'est vraiment une vision normative du commerce, on peut le dire. Parce que Hume et Smith sont des philosophes pragmatiques, empiristes. Ils voient bien ce qui se passe. Et d'ailleurs, je citerai Smith juste après. Mais ils sont conscients de la réalité du système colonial, des empires, de la violence qui s'exerce pour le commerce. Le XVIIIe siècle est le siècle où, si je suis couvert des historiens, mais en gros le siècle où les guerres se font maintenant pour le commerce. Et alors j'ai oublié de le dire, de le mentionner, mais c'est très important. Hume écrit Of the Jealousy of Trade pendant la guerre de 7 ans, à l'acmé de la rivalité franco-britannique. Donc pareil, la fin de l'essai est encore plus courageuse, entre guillemets, lorsqu'on connaît un petit peu le contexte dans lequel il l'élabore. Donc l'idéal du doux commerce, qu'est-ce que c'est? C'est mis en avant par Montesquieu. Montesquieu nous dit que le commerce adoucit les mœurs. Là où il y a du commerce, il y a des mœurs douces. Il y a des mœurs douces, il y a du commerce. Bon. Et surtout, le commerce pacifie les relations entre les nations. Alors pourquoi, nous dit-il? Simplement parce que le commerce crée de l'interdépendance. À partir du moment où je commerce et que j'ai des liens réciproques économiques avec un pays, je n'ai pas intérêt ou moins intérêt à lui faire la guerre. Alors, est-ce que c'est vrai? C'est plus une théorie, c'est même... pas forcément une théorie d'ailleurs, hein, c'est plus un paradigme ou une idée, on va dire. Alors des économistes d'ailleurs contemporains ont essayé de tester ça empiriquement, bon ça donne des résultats qui sont pas extraordinaires bien sûr. Ça, on l'a bien vu, la mondialisation n'a pas empêché les conflits militaires, pas beaucoup réduit, bon bref. Mais en tout cas il y a cette idée qu'on peut dépasser en gros les conflits politiques. Jusqu'au XVIIe, XVIIIe siècle, il y avait deux visions pour l'Europe. C'était soit la monarchie universelle, un pays va dominer tout le monde, soit c'était l'équilibre des pouvoirs, une espèce de concurrence exacerbée politique et qui maintiendrait une forme d'équilibre. Et puis la troisième version qui va apparaître au XVIIIe siècle, c'est vraiment cette idée de pacification à travers le commerce. Et donc on a une vision assez idyllique, optimiste, naïve peut-être si on veut, mais... du commerce qui serait une source d'émulation et surtout d'union et d'amitié entre les nations. Le terme amitié est vraiment utilisé. Donc Smith, la fameuse phrase de Smith, c'est « Commerce ought to be a bond of union and friendship » à la fois entre les hommes et entre les nations. D'accord ? Donc comme si le commerce, en gros, il y a vraiment cette idée que le commerce est un vecteur d'une certaine société cosmopolitique qui va permettre de ce que la politique ne permet pas, de rassembler les individus dans les nations et surtout entre les nations, en échangeant, en parlant, en se voyant, en achetant. Les échanges culturels, sociaux, économiques, etc., permettent de créer des liens et une certaine forme d'amitié. Alors bien sûr, Smith étant un philosophe moral, Hume aussi, ils savent ce que veut dire amitié. On n'est pas dans l'amitié véritable, l'amitié de vertu à l'Aristote, mais on est quand même dans une forme d'amitié utilitaire. Les intérêts réciproques créent une forme de sentiment, d'attachement, l'amitié franco-allemande, paraît-il. Donc voilà un petit peu l'idée. Et donc, pour compléter, il faut que j'avance quand même un petit peu. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne que le commerce serait un vecteur de civilisation, qui est un autre grand concept, alors très très chargé, du XVIIIe siècle. Hume comme Smith pensent que le commerce civilise les peuples, c'est-à-dire qu'il adoucit les mœurs, il permet aux gens d'échanger, en échangeant ils vont atténuer et se mettre à la place des autres, mieux comprendre leurs us et coutumes, et donc partager un certain nombre de choses, sympathiser, approuver plus ou moins, bon bref, ils vont essayer de s'accorder et de s'harmoniser. Il y a vraiment cette idée d'harmonie sociale qui est très très importante chez les Lumières écossaises, et donc il y a un idéal cosmopolitique par le commerce. Alors, est-ce que c'est totalement utopique? Je vais revenir un petit peu dessus après. C'est cosmopolitique, non pas dans le sens où on pourrait croire que c'est utopique. Il ne s'agit pas de dire « je vais privilégier l'intérêt du commerce mondial à mon intérêt national ». D'accord ? Il s'agit de dire « l'intérêt du commerce mondial est un intérêt qui est bon pour tout le monde ». D'accord ? Donc, on n'est pas dans un désintérêt ou désintéressement plutôt, mais on est dans cette idée d'intérêt mutuel. Le monde entier a intérêt à s'ouvrir. Par contre, si certains commencent à se protéger, alors d'autres vont être obligés normalement de répliquer. Le seul moment où Smith est favorable au protectionnisme, c'est il dit en termes de représailles face à des nations qui font du protectionnisme, quand Trump impose des droits de douane, normalement l'Union européenne doit répondre. Et donc, qu'est-ce qui se passe derrière? Smith nous dit il faut répliquer pour forcer le pays à rechanger sa politique et donc à revenir à quelque chose de plus normal. En gros, il faut soit le menacer, soit mettre des contraintes pour qu'ils comprennent bien qu'on ne peut pas nous tordre le bras impunément. Donc voilà un idéal cosmopolitique, mais qui passe non pas simplement par une vision de personnes qui auraient une espèce de moralité supérieure, qui serait capable de penser l'amour de l'humanité. Smith comme Hume sont des philosophes relativement réalistes, je vais en parler juste après, mais ils ne pensent pas qu'on puisse aimer quelqu'un à l'autre bout de la planète autant que nos proches ou notre famille, pas forcément, en tout cas difficilement. Mais il suffit de comprendre les intérêts mutuels du commerce. On peut passer, s'il vous plaît. Donc voilà, si on veut comprendre en fait la vision des relations entre commerce et guerre chez Hume et Smith, à mon avis, il faut repartir de cette question fondamentale pour eux qui est qu'est-ce que la nature humaine? Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'espèce humaine, quand je dis l'homme? Question centrale chez Hume, c'est le titre de son principal ouvrage philosophique. Chez Smith aussi, ça tient une place très importante. Et un des éléments de la nature humaine, qu'est-ce qui distingue les hommes des êtres espèces animales, nous dit Smith, c'est la propension naturelle à l'échange, natural propensity to truck, barter and exchange. Smith nous dit, on n'a jamais vu deux chiens qui ont échangé des os entre eux. Bon, c'est pas faux. Il y a cette idée que l'homme est une espèce coopérative. Et c'est ça qui fait sa force. Alors, après, d'où vient la propension naturelle à l'échange? Elle vient, nous dit Smith, du désir de persuader qu'il lui-même est lié à la faculté de langage. Parce que nous sommes des êtres de langage, qu'en gros, on a le langage pour pouvoir persuader les autres d'échanger avec nous. Et pourquoi on a besoin d'échanger avec les autres? Là aussi, chez Hume et chez Smith, il y a cette idée que l'être humain est un être fondamentalement incomplet, contrairement à la plupart des animaux qui peuvent vivre seuls, indépendamment, etc. Les êtres humains, si on les laisse dans la nature brute, seuls, ils vont disparaître à moins de s'entendre, de coopérer pour pouvoir au moins faire face à la nature, aux bêtes sauvages, etc. C'est une vision très particulière de la condition première de l'homme, une condition imparfaite, faible, vraiment une faiblesse de l'être humain au départ, qui nécessite en fait qu'il se rassemble et qu'il coopère, qu'il travaille ensemble. Donc chez Smith et chez Hume, mais surtout chez Smith, il y a cette idée que l'homme est par nature un être social qui cherche la sympathie, l'approbation, qui cherche l'harmonie avec les autres. Donc il y a une vision très positive de la nature humaine. En gros, j'ai mis une certaine vision, on pourrait mettre une certaine vision positive, voire très optimiste de la nature humaine. Il s'agit de faire un contre-op, c'est un contre-Mandeville, qui nous disent on est que égoïste, non. Les Écossais, eux, nous disent non, quand même, il y a autre chose que l'égoïsme dans la nature humaine. Et quand je dis être moral, c'est un être réflexif, c'est la conscience, c'est le spectateur impartial chez Smith. Je suis capable de réfléchir sur mes propres désirs, mes propres préférences. Je ne cherche pas simplement à être approuvé par les autres, mais j'ai envie d'être digne de cette approbation, etc. Ok. C'est ça qui nous pousse à la vertu. Donc, Ce qui est aussi extrêmement important chez les Écossais, contrairement à ce qu'on entend souvent, Smith n'est pas un théoricien de l'égoïsme. Il critique les systèmes égoïstes de moralité, donc Hobbes et Mandeville en particulier, La Rochefoucauld aussi pour l'époque. À la fois, on est égoïste, mais pas au sens péjoratif ou moral du terme, c'est-à-dire on a un amour de soi, c'est le self-love, hein, c'est-à-dire on a un instinct de conservation qui est nécessaire pour pouvoir survivre. Donc on se préfère au reste du monde, et il est obligé que ce soit le cas parce qu'il faut qu'on survive. Par contre, ça ne veut pas dire que nécessairement on est égoïste, c'est-à-dire qu'on ne va pas forcément privilégier, et heureusement, notre intérêt toujours sur celui des autres. On ne va pas écraser les autres simplement pour réussir. Enfin, en tout cas, pas tout le monde. Deuxième élément, à l'inverse, on n'est pas complètement égoïste, mais on n'est pas complètement altruiste envers le monde entier. Je disais tout à l'heure, l'amour de l'humanité, c'est quand même très très limité. Tout le monde n'est pas capable de se décentrer, tout le monde n'est pas Mère Teresa. Et heureusement, on nous dit Smith, hein. C'est ça qui est intéressant, c'est que ce ne serait pas forcément une bonne idée qu'on ait envie. C'est très bien qu'on puisse aider d'abord nos proches. Donc il y a les sentiments moraux, en gros, sont liés à la proximité physique et spatiale. Donc plus les gens sont proches de moi physiquement, plus je les rencontre, plus je les côtoie, et plus ils sont proches sentimentalement, et plus il y a de chances que je sois altruiste. Par contre, pour des gens que je ne connais pas du tout, et surtout que je ne vois pas, hein, la question de la vision du spectateur est très importante chez les Lumières écossaises. Et donc, ce qui fait qu'on a des êtres ni complètement égoïstes, ni complètement altruistes. Hume parle de « confined generosity », une générosité limitée, quoi. Par contre, ce sont des auteurs qui insistent beaucoup, et je pense que c'est très important, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, moi, sur cette question de la réciprocité. L'être humain est un être de réciprocité, c'est pour ça que c'est une espèce coopérative, une espèce de homo réciprocans. La réciprocité, elle n'est pas seulement intéressée, elle n'est pas seulement au cœur des relations économiques et sociales, alors elle l'est particulièrement chez Hume, hein. Hume qui insiste pas mal sur les conventions de justice qui naissent de la compréhension de l'intérêt mutuel. On a tous intérêt à ce qu'il y ait des droits de propriété qui soient bien respectés et que les gens respectent leurs contrats et leurs promesses aussi, entre guillemets, même si ce n'est pas toujours le cas. À l'inverse, Smith va plus loin et défend l'idée de réciprocité morale. Les êtres humains rendent le bien et le mal qui leur est fait. Lorsqu'on me donne un cadeau, un don, je vais ressentir un sentiment de gratitude, de dette morale qui va me pousser à rendre cette bienfaisance. À l'inverse, si quelqu'un me blesse, me heurte de manière inconvenante pour des motifs qui ne sont pas justifiés, je vais ressentir du ressentiment et ce ressentiment va me pousser à demander une punition ou une vengeance, entre guillemets, mais au mieux, c'est quand même une punition liée aux institutions sociales, aux juges. Donc la réciprocité au cœur de l'être humain, l'intérêt et les passions mutuelles. Je vais passer, s'il vous plaît. Pour terminer, donc, en fait, on comprend bien que le commerce et la guerre sont dans une opposition fondamentale, hein, chez les Lumières écossaises, en particulier chez Hume et Smith, qui sont vraiment des gens qui mettent en avant le commerce au sens large, pas seulement au sens économique. Le commerce suppose l'échange, donc une certaine forme minimale d'égalité, de reconnaissance, d'approbation sociale, de mutualité, de réciprocité minimale, je disais, de symétrie, hein, et d'horizontalité fondée sur un intérêt mutuel et sur la persuasion. À ça, Smith oppose l'amour de la domination. Donc il y a le désir d'échange et de sympathie versus l'amour de la domination. L'amour de la domination, pourquoi on aime ça? Parce qu'on n'a pas, nous dit Smith, à condescendre à persuader les autres. Je n'ai pas besoin de m'abaisser à parler à quelqu'un qui n'est pas de ma condition pour obtenir de lui ce dont j'ai besoin, quoi. D'accord? Et donc la guerre, elle repose sur l'amour de la domination, qui est aussi très important. Il y a toujours cette opposition, ce ne sont pas non plus des gens complètement naïfs, toujours cette opposition en l'être humain entre le désir de sympathie, d'harmonie avec les autres, et puis le désir de dominer les autres. Ce désir de l'amour de la domination de Smith à l'origine de l'esclavage et de sa persistance, quand bien même il n'est pas dans l'intérêt économique. Donc à partir du 18e, Smith et surtout les économistes français vont essayer de montrer par le calcul, ça c'est intéressant, le calcul économique va essayer de montrer aux propriétaires d'esclaves qu'ils n'ont pas intérêt à garder des esclaves, qu'il vaut mieux des travailleurs libres, c'est plus efficace que, au-delà de la question morale, il y a une question économique aussi qui est posée par l'esclavage. Et donc il y a un désir de puissance et de pouvoir, une asymétrie, une inégalité, un rapport de force et une verticalité dans la guerre qui est en gros néfaste pour tout le monde. Donc en clair, l'échange et le commerce, c'est un jeu à somme positive. La guerre, c'est un jeu à somme nulle dans lequel personne, enfin en tout cas ce que l'un gagne, l'autre le perd. Et donc à mon avis, l'idéal que portent les Lumières écossaises, c'est cette idée que l'esprit de commerce pourrait supplanter l'esprit de conquête pour reprendre des distinctions de Jean-François Melon et Montesquieu. Et tout ça pourra permettre d'assurer la prospérité, la paix et la, entre les nations. Donc un nouvel idéal de doux commerce qui est à l'origine, comme vous le savez, et de la justification très souvent de l'Union européenne, par exemple, du grand marché commun et de l'Union européenne. Voilà, je m'arrête là. Merci. Merci. 45 minutes. Incroyable. 45 minutes.
Merci beaucoup Benoît pour cette brillante conférence, on n'avait aucun doute. Et en plus sur tes capacités didactiques qui ont pu nous permettre de mettre les idées de Hume et Smith et avant eux des mercantilistes à la portée de tous. Donc c'est vraiment très apprécié. Merci encore Benoît. Il y aura peut-être des questions. Ouais.
Oui. Le capital, à l'époque, n'était pas les capitaux, ce trésor de métaux, n'était pas affecté à l'industrie, puisqu'il n'y avait pas d'industrie. Donc c'était affecté au commerce. Et le commerce affectait beaucoup de capitaux au commerce. Ça n'a pas une grande utilité. À un moment donné, on ne peut pas affecter à l'industrie des capitaux au commerce s'il n'y a pas de production avant le commerce. Et en plus, les gains de productivité ne sont pas extraordinaires. Je ne sais pas si on a 5, 15 bateaux pour aller. Ça, okay. On en aura peut-être 20, peut-être 25, on n'en aura pas 500. Donc, ce qui est simplement.